I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sainte Marguerite, pardon de vous cambrioler. Un Arsène Lupin toxicomane, un type qui laisse un mot d'excuse sur le bureau du cabinet médical boulevard Romain Rolland, dont il est venu dérober grand nombre d'ordonnances mardi entre midi et deux. De quoi se procurer des produits de substitution et des anxiolytiques qu'il aura le loisir de mélanger avec l'alcool délivré sans ordonnance dans toutes les bonnes épiceries. Saint-Barnabé. On ne court pas des haltères dans les bras. Quand on vole un portable, s'enfuir en courant est envisageable. Mais quand on vole des haltères, c'est une sorte de défi que l'on lance à soi-même. Défi perdu pour ces trois jeunes de 21 et 17 ans, pris la nuit dernière, minuit 30, des haltères plein les bras, à la sortie d'une salle de sport du boulevard.
En 2010, il y a eu un homicide important à Marseille, un règlement de compte qui était de Jean-Michel Gomez, qui était un petit dealer, un petit trafiquant, un chouf, quoi, de la cité du Clos-Larose, et qui a été tué sur son fauteuil de guetteur. Et la photo est là, il y a une photo terrible, on le voit sur le fauteuil, tué, vraiment le mythe Scarface. Et à ce moment-là, ça préparait déjà les élections de 2012. Donc la gauche s'est saisie de ce fait divers pour dire... Sarkozy a annoncé qu'il allait nettoyer Marseille, il n'a rien nettoyé du tout, c'est pire qu'avant. À ce moment-là, le préfet est remplacé de police, il y a toujours un fusible, boum, on fait péter le préfet, on en met un autre qui préparait un peu les élections, parce que Sarkozy allait arriver. Ils ont fait venir un préfet qui s'appelle Alain Gardère, qui avait une réputation qui venait de la préfecture de police de Paris, la réputation d'être un type très dur, très volontariste... Bon, très bien, hein. Moi j'avais toujours eu de relations convenables avec les préfets. Et donc comme j'apprends dans les premiers qui va venir, je demande une interview dans les premiers. C'est le jeu. Oui. Donc la Provence passe avant, je le tolère. Je sais très bien que ça marche comme ça. Mais après moi je passe pas deuxième, je passe 7 ou 8e. Et en plus à cette époque-là j'avais un bébé. Et là c'est important pour la suite parce que évidemment il devait me rappeler. On devait la faire au téléphone et il me rappelle pas le préfet. Et moi, je me bagarre pour endormir le petit. Je finis par l'endormir et dans mes bras. Et évidemment, c'est le moment où le préfet appelle. Donc je fais une interview en chuchotant avec un préfet qui me raconte n'importe quoi. Et moi, d'habitude, je suis dur. Je réplique. Et là, je suis obligé de ne pas faire de bruit, quoi. Parce que je ne veux pas réveiller le nain que je viens d'endormir et que je vais remettre 2 heures derrière, quoi. Et donc, je parle comme ça tout le long. Je fais une interview comme ça. C'est ridicule. Et il me répond ce qu'il veut, il me sort tous ses trucs, il va tout nettoyer, c'est le plus fort, c'est le plus beau, il a tout compris, on est tous nuls, ok. Le lendemain, je réponds, et puis là, après, je me dis, toi, je vais travailler sur toi, quoi. Et à ce moment-là, j'ai sorti un article qui s'appelait « Fier à bras » sur le préfet. Bon, c'est même pas écrit à la calache, c'est écrit au char d'assaut, quoi. Tout ce que je dis est vrai, mais c'est... J'envoie du lourd, du très très lourd. Et là, on part en guerre, tous les deux. Évidemment, c'est ce que je voulais cette guerre. Il est, comment dire, à Marseille, c'est un Fatoumac, c'est un Mariol, mais moi, je suis un Fatoumac aussi, je suis un Mariol. Voilà, le côté cake, là, on est tout de suite tombé dans un combat de coq, avec deux gros coqs, quoi. Et là, moi, je me mets à me rendre compte qu'en fait, il est totalement détesté par ses services, mais dans des proportions incroyables, parce qu'en fait, c'est un flingueur. Il n'a pas toujours tort, d'ailleurs, dans ce qu'il dit, mais en tout cas, il le dit, il y va lui aussi au char d'assaut, au napalm. Et donc, je commence à avoir des infos sur ce qu'il fait, sur pas sur lui personnellement, c'est pas ça la question, hein, sur ses actions. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est une ordure et que je... non, c'est sur ses actions, sur ça. En fait, il est là pour préparer une élection. Et donc je raconte, comment, alors qu'ils sont, c'est en plein RGPP où on enlève les policiers, lui met des heures sup à des proportions telles qu'en fait ça te coûte 5 fois le prix de des postes qu'il supprime. Je raconte comment il planque lui-même pour contrôler les flics et les emmerder. C'est un préfet qui planque, c'est quand même pas courant, quoi. Mais pour contrôler les flics, je raconte tout, parce qu'en fait le mec est surveillé par ses propres flics qui me font des comptes rendus permanents. Et donc là, ça n'arrête pas. Je crois que je le harcèle, en fait. Je fais un papier jour. Et lui, il claque tellement les portes de la préfecture de police que les plafonds vont finir par s'effondrer. Et encore aujourd'hui, il y a un arrêté de péril sur la préfecture de police. Je ne dis pas que j'en suis responsable, mais en tout cas, j'ai aidé. Et en même temps, il me craignait. Il avait peur que je lui pose des questions devant tout le monde. Et parce que j'avais cette réputation de flingueur, ce que je ne suis pas forcément d'ailleurs. Et quand... c'est le vrai combat de coq, quoi. Quand il y avait des conférences, j'y allais et je faisais toujours mine de parler. Et à ce moment-là, je voyais se liquéfier. Puis après, il prenait une posture dure. En fait, c'était vraiment le jeu de dupe comme ça. Et on faisait bien rigoler les journalistes et tout. Et il y a eu plein de moments où il appelait et disait « S'il n'y a plus Jol, je ne viens pas ». C'est sous ce préfet-là qu'il y a eu la fameuse affaire de la BAC Nord.
Commençons donc par ce qui se passe à la BAC de Marseille, ou ce qui se passait dans cette BAC, puisque le service a été dissous par Manuel Valls quand il s'est rendu compte que certains de ses membres, de ses policiers, avaient l'air de se comporter davantage comme des voyous que comme des policiers.
Encore une première nationale et encore Marseille qui fait la une brigade dissoute, la BAC des quartiers nord, cela n'était jamais arrivé. 30 fonctionnaires suspendus, dont 15 ont été mis en examen pour vol et extorsion en bande organisée ou trafic de stupéfiants.
Mardi 2 octobre, la police des polices perquisitionne les vestiaires de la BAC nord dans les casiers du hashish, de l'argent liquide, tout va très vite. La même semaine, Manuel Valls prononce la dissolution de la BAC Nord. Jacques Dallest, procureur de la République à Marseille, parle d'une gangrène qui aurait atteint le service.
Apparemment, un certain nombre d'entre eux se payaient sur la bête, si vous permettez l'expression.
Aujourd'hui, ils sont libres, placés sous contrôle judiciaire, mais selon leurs avocats, le dossier s'avère vide de preuves.
L'affaire de la BAC Nord, dans l'opinion publique, dans l'image populaire qu'on en a aujourd'hui, c'est une affaire d'une brigade anticriminalité intégralement ripou, en bande organisée, et qui rackettait des dealers et qui revendait du shit. C'est ça l'impression qui est restée aujourd'hui. Si on dit BAC Nord quelque part, de suite on va avoir ripou et ce type de truc. L'histoire est beaucoup plus compliquée que ça, et elle a été racontée, hein. Moi je l'ai racontée dans Marseillaise, Le Monde l'a racontée, mais pour autant... l'histoire finale n'est jamais revenue. En fait, il y avait donc l'élection de 2012. Et le préfet de police, parce que j'ai beaucoup tapé dessus, mais pas que, parce que il n'avait pas les résultats escomptés, c'est surtout ça, se retrouvait dans une situation où il fallait qu'il prouve que Marseille était nettoyée, puisque Sarko, derrière, allait faire encore une campagne sur l'insécurité. Et à ce moment-là, il n'y arrivait pas. Puis il n'avait pas particulièrement la police avec lui. C'est-à-dire qu'il n'amenait pas les foules, c'est-à-dire il n'avait pas le coaching pour, hein, loin de là. Hein. C'était un type très dur, même si des fois il s'attaquait à des gens qui méritaient, mais il était tellement dur que la réponse était terrible. Et puis il n'a pas aussi compris cette ville compliquée où les unions ne se font pas par parti politique, mais par arrangement. Il n'a pas du tout compris comment fonctionnait Marseille, qu'il faut mieux prendre en douceur qu'en force. Voilà, tu ne prends pas en force une ville comme Marseille, parce qu'elle te le rend x10. J'en suis un exemple pur, quoi. Quand il est venu à Marseille, il n'a pas compris qu'en fait, plus il tapait, plus il prenait en retour cette ville, plus tu vas l'agresser, plus elle va te le rendre. C'est ce qui se passe en ce moment avec les élus. Plus tu vas taper fort, plus tu vas prendre, plus tu vas en douceur et en essayant de comprendre, plus tu as de l'espoir de pouvoir faire quelque chose. Et là, il a tenté un coup. Il a tenté, je vais faire simple, puisqu'il y avait plusieurs services de police qui étaient en opposition, comme c'est souvent le cas, il a tenté de faire de la BAC Nord un exemple de nettoyage. La BAC Nord était administrativement un petit peu borderline, d'accord ? Pourquoi ? Parce que quand tu es un policier de la BAC, quand tu interpelles un minot avec, ou quelqu'un avec trois barrettes de shit, en théorie, tu le ramènes au commissariat, tu déclares une saisie, tu déclares plein de choses, et tu perds 3-4 heures. Le problème, c'est qu'ils doivent faire du chiffre à cette époque. Faire du crâne en jargon flic. Donc pour faire du crâne, évidemment, ils vont pas perdre 3-4 heures. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Efficace à la Marseillaise, ils libèrent le minot qui de toute façon serait libéré, casse-toi, ils gardent les trois barrettes de shit, ils les fument pas, ils les vendent pas, ils les stockent et ils se servent après quand ils ont suffisamment de shit pour alimenter des tontons, des indiques. Mais tout ça normalement doit être déclaré, ça passe par des fichiers, c'est... Le règlement fait que normalement, ils doivent tout déclarer. Eux, ils déclarent que dalle, et ils sont un peu olé-olé là-dessus. Et à ce moment-là, voilà un des éléments qui est utilisé par la police des polices, qui est en guerre contre le directeur de la police à l'époque, qui lui-même est en guerre contre Gardère. Et tout ça, tous ces gens-là vont exploiter, utiliser les dysfonctionnements réels de la BAC Nord, mais pas non plus une bande organisée de ripoux. Et là, tout monte, et des médias sont utilisés, moi le premier, etc. Et, tout. Et on en arrive à l'affaire la BAC Nord, que Valls va s'en saisir quand il va être ministre ensuite, parce qu'au final, Sarko a perdu. Valls arrive et lui dissout la BAC Nord. Vous voyez, je suis le ministre de l'Intérieur. Première chose que je fais, c'est que je nettoie une ville compliquée. Marseille, ça sert à ça, c'est une soupape française pour les questions de sécurité. Hein, donc, dès qu'on veut montrer qu'on nettoie, bon truc à Marseille, ça fait nettoyage. Mais en fait, on n'a rien nettoyé du tout, on a nettoyé quelque chose qui était à peine sale, quoi. Pour le coup, alors que du sale, il y en a, mais là, on n'a pas nettoyé au bon endroit. Et on a mis sur la touche un paquet de flics qui ne méritaient pas de l'être, et il y a eu toute cette affaire-là. Après, on a été plusieurs à le raconter, tout ça, dans le détail, là, j'ai pas de détails. Mais l'opinion publique, elle préfère BAC Nord, Ripoux, que finalement BAC Nord, pas Ripoux, mais usage politique trop compliqué. Donc ça s'est arrêté là. Par contre, quand j'ai écrit sur la BAC Nord, c'est là que j'ai été interdit d'évêcher. Mais moi, avec ma gueule de flic, j'y rentrais comme un flic. Les gens savaient même pas que j'étais journaliste, à part les quelques commissaires qui eux me parlaient. Et donc j'ai continué. Et là, il y a eu des enquêtes administratives sur comment il a tout ça. Mais en fait, c'était pas des fuites, c'était des voies d'eau. Il y avait pas de fuite, en fait. Les vannes étaient ouvertes. Et il fallait pas chercher le flic qui parle, il fallait chercher le flic qui parle pas, en fait. Et ils ont dépensé des fortunes pour savoir d'où venaient mes infos. Et donc, j'ai fini par accepter de plus aller à l'évêché, parce que ça posait trop de problèmes à des policiers qui étaient là. Mais là, bon, ça y est, t'es un héros, mais t'es un héros au chômage, quoi. T'es un héros au chômage technique, c'est-à-dire que maintenant, j'ai plus d'infos, j'ai plus à l'évêché. Et là, je me suis retrouvé, ok, maintenant, comment on fait ? Et il a fallu que je parte sur les cités, quoi, d'aller chercher à la base d'une certaine info, pas des infos, mais d'une certaine info pour aller là-dessus. Alors, je travaillais déjà sur les cités, parce qu'à la Marseillaise, c'est une tradition, travailler sur les quartiers populaires, c'était pas non plus à zéro. Mais là, je me suis mis à travailler plus sur les cités, et c'est à ce moment-là que je commence à faire mes séries sur les stupes. Le travail se fait, en fait, parce que je n'ai pas d'autre choix. Et je me suis rendu compte, après, que j'étais plus un journaliste de société que de faits divers, puisque je faisais plus le quotidien. Les petits quotidiens, il y a eu un trou là de quelques mois où j'ai plus écrit de brèves, mais ça m'a donné un autre regard encore sur mon travail. Et au final, le préfet a fait ce qu'il avait à faire, ça a raté, mais ça n'a pas raté parce que je l'ai fait rater. Depuis, il est par des personnes interposées, alors il a eu des problèmes judiciaires dans la foulée, mais moi, je n'ai pas écrit dessus. Moi, je suis pas de ceux qui écrivent quand les meutes sont lâchées, c'est-à-dire que je suis le premier à mordre, en fait. Mais une fois qu'il y a tous les chiens... Je mords plus, quoi. Ça m'intéresse plus. J'ai plus du tout écrit. Je pense qu'il a apprécié ça. Et m'a fait contacter pour qu'on se voit. Après, ouais, j'irai le voir, ouais, quand j'aurai le temps. On fera comme dans les troisièmes mi-temps de rugby, quoi. On boira un coup et on se racontera les gifs qu'on s'est mis. Mais je trouve ça appréciable que ça fonctionne comme ça, en fait. Justement, c'est très troisième mi-temps de rugby. C'est-à-dire qu'il faut pas se leurrer. Les gens, les préfets, les commissaires, ça, ils ont des missions autres que la seule mission qu'on leur connaît. Et on peut trouver ça scandaleux, ce qu'on veut. C'est comme ça. C'est pas faisable autrement, quoi. Donc, toi, journaliste, tu prends ça en compte aussi. C'est-à-dire que les jugements moraux éternels, ok, mais à un moment, tu es dans une sorte de tunnel psychologique de ce que tu fais. Lui comme moi, d'ailleurs. Ça a été une expérience étonnante, parce que s'attaquer à un préfet, c'est s'attaquer à l'État, c'est dur, hein. Puis les coups que tu les prends, ils sont durs, hein. Les interdictions, les appels de ses services pour dire « Oh, faut calmer, ça va mal finir ». T'es convoqué dans le bureau de ton directeur qui te dit « On m'a dit de te dire ». C'est que il est important, le préfet. et que c'est un mec bien, tu pourras pas dire qu'on te l'a pas dit, ça t'a été dit, enfin, tu te prends quatre phrases, 12 on t'a dit que tu m'as dit que je t'ai dit, et en fait, c'est de, histoire de te dire, justement, d'arrêter d'écrire. Mais moi, on me fait ça, j'écris deux fois plus. Et c'est finalement le préfet qui arrive derrière. Première chose qu'il fait, rendez-vous avec moi, on discute. Je me rends compte qu'il a compris la ville, qu'il ne faut pas y aller comme un bourrin, qu'en effet, il y a du travail, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a du travail dans cette ville. Et on se met à avoir des relations qui sont plus saines de journaliste à préfet. Parce qu'il vaut mieux que les relations soient saines quand même. Et je préférais quand même des relations saines que ce truc de hormonal presque qu'il y a eu. Parce que c'était vraiment un combat de coq. J'ai pas de regrets aujourd'hui, mais j'en suis conscient. Hein. Je suis conscient que c'était la boîte à claques, quoi. Mais bon, aujourd'hui j'en ai des bons souvenirs, mais sur le moment, c'était quand même stressant chaque jour. Ouais, c'est stressant. S'attaquer quand même à l'État, c'est quand même stressant. C'est pas non plus ce qui se fait de plus. C'est pas le plus marrant, quoi. Puis en plus, tu sens bien que t'es seul. T'es seul. Seul, seul. Quand ça attaque là, c'est au moment où la justice passe derrière, où il y a des trucs. Alors là, tout le monde me crie. Il n'y a plus de problème. Mais là, dans ces moments-là, t'es seul. Complètement seul. La Marseillaise permettait ça. J'ai eu beau avoir le directeur qui m'a fait monter. En fait, il n'avait pas un pouvoir énorme, mais le rédac-chef, s'il voulait, ça passait, ça passait. Ça, c'est quelque chose de bien. Tu pouvais pas tout passer à Marseillaise, il y avait des sujets interdits, mais pas ça, quoi. C'était déjà pas mal.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.